Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. La justice est peut-être aveugle, mais heureusement pour elle, elle n'est pas sourde. Et elle est toute impatiente, la justice, d'écouter aujourd'hui dans Popopop un juge chantant. Attention, je n'ai pas dit qu'on allait faire chanter un juge, non. Il est parfaitement consentant, c'est juste un juge qui aime chanter, comme on a vu des sportifs, des acteurs et même des politiciens chanter. Et après tout, chanter n'est-ce pas l'occupation la plus naturelle du monde? Tout le monde chante, même certains chanteurs. Tiens Charline, vous chantez vous aussi? Allez-y.
Oui. Tout le monde y veut seulement la thune. C'est Angèle.
Alors enfin, quand je dis tout le monde chante, ce n'est pas tout à fait exact. Moi, par exemple, je ne chante pas. J'évite. La dernière fois que j'ai essayé, c'était au zoo de Vincennes. J'ai provoqué la fausse couche d'une femelle crocodile au grand désespoir du comédien Vincent Lacoste avec qui je me promenais dans les allées. Oui, Vincent Lacoste adore les crocodiles. Et ce n'est pas juste, c'est même totalement injuste. Pourquoi moi, qui ai pourtant tous les talents, ou presque, suis-je contraint de la fermer alors que le monde entier y compris, a le droit de chanter? C'est injuste et ça tombe bien, comme nous recevons un juge, je vais pouvoir lui demander conseil. Marc Trévidic est l'invité de Popopop.
France Inter. Popopop. Antoine de Caunes.
Chantez bien, Charline. Bonjour, Marc Trévidic.
Bonjour, bonjour.
Et bienvenue dans Popopop. À mes côtés, Charline.
Bonjour, bonjour.
Vous venez de découvrir l'organe. Bonjour, Charline. Au menu de Popopop, donc, une spéciale justice pop. Alors, il ne sera pas question du groupe avec le petit énervé et le grand mou, là, qui font cette espèce de son. Non. Il sera question de justice, certes, mais traitée de façon pop. Avec nous tout à l'heure, Betsy West, la réalisatrice du documentaire RBG, programme chargé. Justement, Marc Trévidic, j'ai ce point commun avec les juges d'instruction. Je pose la question jusqu'à ce que j'obtienne la réponse. Voici 9346 émissions que je pose cette même question. Pour vous, Marc Trévidic, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai eu des réponses étonnantes, stupéfiantes, saugrenues, rigolotes, indéchiffrables. Et parmi mes préférées, il y a celle de justice, justement. Écoutez.
C'est tout ce qui finit par arriver à nos yeux, nos oreilles, parce qu'on n'est pas, finalement, on laisse les choses venir à nous et on n'est pas sans cesse en train d'essayer de découvrir des livres, des films, de la musique. Et j'ai l'impression que pour nous, la pop culture, c'est ce qui finit par arriver spontanément jusqu'à nous, sans qu'on ait besoin d'aller la chercher.
Alors, êtes-vous d'accord avec cette définition ou pas?
Pas du tout. Non, c'est vraiment la culture des gens qui veulent pas qu'une élite leur impose leur culture. Mm-hmm. Il y a un côté révolutionnaire, enfin, historiquement.
Ça commence bien, vous êtes en parfait désaccord avec justice.
Mm. Bah oui, je suis souvent en désaccord avec la justice, souvent, c'est pour ça que je suis juge d'ailleurs.
Ça commence...
On la combatte de l'intérieur.
Parfaitement bien. Me voilà ravi. Alors Marc Trévidic, pop break dans ce pop spécial justice. Pop pour écouter On ne meurt pas d'amour, c'est un morceau signé Clara Luciani.
Yeah.
Clara Luciani, On ne meurt pas d'amour, cet extrait de l'album Sainte Victoire. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec celui qui depuis des années s'entend dire « Objection, votre honneur, mais qui est-il ? » Réponse avec son pop portrait. Alors votre pop portrait, Marc, c'est un portrait, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline...
Traditionnellement, les héros de bande dessinée deviennent des personnages en 3D que lorsqu'ils font leur apparition sur grand écran, notre invité, lui, déjà héroïque en 3D, a décidé d'accomplir sa tâche aussi en version dessinée. C'est comme si presque 10 ans au pôle antiterroriste n'était pas suffisant. Quel genre de héros, me demanderez-vous ? Alors bah, du genre pugnace et incorruptible, forcément, du genre à vouloir faire éclater la vérité, il est un peu le lasso magique de Wonder Woman, du genre à aller chercher le contact, que ce soit dans les hautes sphères ou les bas-fonds, enfin comme Batman quoi, finance ou terrorisme, rien ne l'effraie. À la différence près que c'est pas sur Gotham que notre invité avait la justice à faire régner, quoique certains ennemis n'étaient pas si loin dans leur folie d'un Joker ou d'un Arkham Asylum bien rempli, un personnage dont on guette la présence en cas d'alerte ou de crise, apaisant à défaut d'être rassurant. It's a bird, it's a plane. Non, it's le juge Trevidic. Notre invité, c'est la Justice League. À lui tout seul, nous le recevons aujourd'hui pour parler bande dessinée.
Merci, Charline. Plutôt Batman ou plutôt Wonder Woman, Marc Trevidic ?
Plutôt Batman, quand même. Bon, alors, voilà, la tenue est un peu moins ridicule, quoi.
Et Flash et Aquaman, mais j'ai pas osé, pour le coup. Marc, je me suis dit que c'était...
Marc Trevidic, je vous ai demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Alors je m'attendais à avoir comme réponse les codes civils d'Alloz, le film Kramer contre Kramer, Assassin de la police par NTM, ou bien Et le juge est une femme comme série, ce qui aurait donné dans mon mixeur de pop culture ça.
Je m'en vais. Je suis le juge Nevers.
Très bon élément.
Je veux mon fils.
Alors là, pas question.
Bon, alors c'est pas mal, c'est... non?
Oh oui, c'est pas mal,
c'est
mais bon,
pas mal. Mais en fait, non, pas du tout. Passons donc à votre vrai pop liste. Hop. Marc Trevidic, nous vous avons vraiment demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, vous avez choisi La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. Charline, vous qui aimez également conjurer les imbéciles, pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Ignatius J. Reilly est un étudiant en littérature médiévale. Il est érudit et parano. Il vit comme Tanguy chez sa mère, qui se trouve être arthritique et alcoolique. Ignatius déteste son époque et méprise ses contemporains. Et un jour, il est sommé de trouver du travail. Sa mère lui demande donc de traverser la rue.
Bien, oui. Voilà. Le cadre posé, est-ce que vous auriez l'amabilité de nous en lire quelques lignes ?
Oh ben, bien volontiers. Bondissant vigoureusement sur le flanc, Ignatius sentit monter un roux dans sa gorge, mais quand il ouvrit la bouche plein d'espoir, il n'émit qu'un hoquet ridicule. Cependant, le mouvement avait produit quelques effets physiologiques. Ignatius tâta la modeste érection qui piquait du nez dans le drap, referma la main dessus et demeura immobile, cherchant à décider ce qu'il fallait faire. Dans cette posture, sa chemise de nuit de flanelle rouge remontée sur la poitrine, son gros ventre saillant sur le matelas, il songea avec quelque tristesse qu'au bout de 18 ans de pratique de son violon dingue, il avait fini par en faire seulement un acte physique, mécanique et répétitif, dépourvu de toutes les frasques de l'imagination et de l'invention qu'il avait autrefois été en mesure d'y apporter.
C'est un extrait de La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, lu par notre invité Marc Trevidic. Alors dans votre carrière, Marc Trevidic, vous avez sans doute croisé un certain nombre de cons, beaucoup de jurés et pas mal d'imbéciles. Est-ce que vous essayez de nous dire quelque chose à travers ce titre ?
Oh, là, je pense qu'on est en plein culture pop avec, cet auteur. C'est-à-dire que c'est un livre qui décrit quand même la Louisiane, à une époque, les gens. Alors, il est décrit à travers quelqu'un qui déteste tout le monde. C'est aussi une certaine originalité. Mais finalement, c'est lui qui est détestable. Voilà, et ça, c'est un peu le symbole de l'élite par rapport à la population, justement. Est-ce que le peuple entier se ligue contre les gens intelligents et que est-ce que c'est le peuple entier qui a tort quand on a des gens qui pensent pour nous, qui décident qu'il faut qu'on soit comme ça, que le bien est là, le mal est là? C'est là vraiment la question de l'organisation des sociétés et la question de la culture pop. Donc je pensais vraiment à cette émission et ça, en choisissant ce livre.
On est en plein dedans. Pour le film, Marc Trevidic, vous choisissez Mon nom est personne de Tonino Valéry. Charline, bien entendu, il ne s'agit pas d'un biopic de Paul Person.
Mais non, Antoine, bien sûr que non. Son nom et personne. Il est joué par Terence Hill, c'est un jeune aventurier que va croiser Jack Beauregard, interprété par Henry Fonda, un héros vieillissant qui veut quitter les États-Unis pour aller finir ses jours en Europe. Mais avant, il veut venger la mort de son frère, Nevada Kid.
Qu'est-ce qui t'arrive, jeune homme? Tu as besoin d'un auditoire? Tu dis que tu t'appelles personne. Je suis tranquille, tu ne tarderas pas de faire un nom sur une de ces croix.
Tu peux être sûr qu'il aura 150 types accrochés à ses fesses. Ce garçon va rentrer dans un fermier.
C'est dans la légende qu'il va rentrer.
Alors du western, d'accord, mais du western rigolo, est-ce que c'est pour tempérer un peu le côté justice expéditive?
Je sais pas, c'est vrai que c'est beaucoup plus rigolo que la vie quotidienne. Non, c'est le charme des deux acteurs, ils sont fabuleux, c'est le côté décalé justement, c'est l'humour, c'est extraordinaire. C'est l'humour et c'est la musique de Morricone aussi,
ouais,
on a entendu
ouais.
un tout petit peu là, quelques notes, c'est fabuleux. Et puis c'est effectivement le aussi quelque part quelqu'un qu'on pousse à accomplir son destin. Mmh. C'est un sujet qui m'intéresse pas mal, parce qu'on est tous un peu obligés d'accomplir quelque chose dans la vie.
Vous vous sentez obligé d'accomplir quoi, vous?
D'essayer d'être un bon juge, quoi. Et par moments, j'en ai plus envie du tout. Je trouve ça trop compliqué. Et voilà. Et bon, alors, c'est pas Terence Hill qui vient me dire, si, il faut que t'affrontes ta horde sauvage. Mais voilà, mon éducation, c'est ce qui fait que je voilà, et c'est comme ça qu'on continue. Et bon, on parlera tout à l'heure d'un juge américain célèbre. Mmh. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un comme ça à continuer à travailler, à se dévouer, à bosser des heures et des heures alors qu'elle a 85 ans?
C'est quoi
la recette? Pourquoi il y a un moteur comme ça qui pousse les gens?
Bien, continuons cette pop-liste avec la chanson et votre chanson préférée, culte, Marc Trévidic, c'est celle-ci. Like a Rolling Stone, c'est un morceau de Bob Dylan, c'était sur l'album Highway 61 Revisited en 65. Quand et comment avez-vous découvert Bob Dylan? Grâce à Hugo Frey comme Charline?
Non, du tout. D'abord, Like a Rolling Stone est sorti en 45 tours le 20 juillet 65, le jour de ma naissance.
Mm-hmm.
Bon, quand même, beaucoup de le marquer, voilà. Et je l'ai entendu à la radio, et notamment cette chanson-là m'a scotché. J'avais jamais entendu quelque chose de pareil. Alors bon, d'où ça vient, qu'est-ce qui fait que ça attire comme ça, que ça capte, mais c'était quelque chose hors norme pour moi complètement. Mm-hmm. Ça n'a pas pris une ride d'ailleurs, c'est quand même un signe. Mm-hmm. Et sa façon de traiter un sujet, de faire un portrait, à l'époque on entendait plein de trucs à la radio, de la musique... français, j'allais dire. Les Beatles, les Stones, d'accord. Mais il y avait quelque chose de puissant, d'assez extraordinaire dans cette chanson. Et elle m'est restée ancrée. Et j'ai dû l'entendre quand j'étais vraiment petit. Et je m'en lasse pas.
Vous êtes un juge mélomane parce que parmi vos influences, on trouve aussi Keith Richards, les Stones, Bachung, Le Velvet.
Oui, bien sûr.
Le fameux Velvet dont on reparlera tout à l'heure. Ça a vraiment été déterminant pour vous?
En fait, j'avais un oncle à Biarritz j'allais en vacances assez souvent, parce que je suis breton basque à Biarritz, et il me mettait quand j'étais tout petit, et puis après ado, il mettait tous ses disques, quoi. Mmh. Donc, il était passionné de ces gens-là, donc j'ai baigné dans les disques du Velvet, notamment, ce qui n'était pas forcément le plus courant du tout à l'époque, et ça fait partie de ce qui m'a créé. Je peux pas vivre sans ça, en fait, quelque part. C'est dans mon ADN.
Et au Pays Basque, vous avez échappé, grâce à cet oncle, à Jean-Baptiste Irigoyen, le Pelotari Chantang.
Non.
Vous n'avez pas connu ça?
Non, du tout.
C'est un Pelotari qui chantait tout en jouant.
Voilà. C'est vrai?
Non, il était vraiment, de ce point de vue-là, ce qu'il aimait est aujourd'hui de la musique classique.
Bon, très bien. Où en étais-je? J'ai fait ma musique, il me manque évidemment une série, et pour la série, c'est ça. Chapeau melon, bottes de cuir, évidemment. Charline, vous qui aimez les melons et les bottes de cuir, au point de mettre parfois les premiers sur votre tête et de manger les seconds, rafraîchissez notre mémoire.
De leur vrai nom, The Avengers, bien avant Hulk & Co., un duo d'agents secrets formé par John Steed, Patrick McNee et Carol Wilson, Ingrid Hafner, puis Kathy Gale, Honor Blackman, puis Emma Peel, Diana Rigg, puis Tara King, Linda Thorson, puis Purdy, Joanna Lumley. Bref, c'est l'histoire d'un mec qui épuise toutes les femmes qui l'entourent.
Histoire de votre vie, Marc Trévidic.
Non, c'est plutôt moi qui suis épuisé. Non, mais c'est extraordinaire cette série. Enfin, mm-hmm. c'est fabuleux. Il y a une touche de mystère, il y a beaucoup de charme, beaucoup d'humour, de distinction, d'intelligence, d'innovation. Enfin, c'est quelque chose là aussi qui prend pas une ride. C'est assez étonnant. Hein. Moi, je regarde encore des anciens, surtout ceux avec Purdey. Voilà, parce qu'il y a eu King, il y a eu. Ça y est, j'en ai oublié une entre les deux.
Emma Peel,
oui, voilà. Ça fait partie. Alors, je sais pas quel regard de jeunes aujourd'hui c'est, par rapport à une série comme ça, parce qu'ils sont dans Game of Thrones, des choses comme ça, et des choses, très, très, très produits marketing. Super d'ailleurs.
Oui, mais c'est des séries très stylisées, qui, comme vous le dites très bien, qui ne bougent pas, quoi.
Oui, voilà. Et puis intelligent. Ouais. Quand c'est intelligent, quand c'est pas simplement, un produit pour la consommation quick, ça reste.
Et vous-même, monsieur le juge, vous êtes plutôt chapeau melon ou bottes de cuir?
J'aime beaucoup les femmes en boîte de cuir, mais je veux pas en mettre. Donc, j'ai un peu melon, c'est un peu beaucoup quand même. Mais c'est la chambre des Anglais. Ils font des choses qu'on peut pas se permettre.
Bien, je résume la conjuration des imbéciles. Mon nom est personne, like a Rolling Stone, chapeau melon et bottes de cuir. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça donne ça.
Qu'est-ce qui t'arrive, jeune homme? Tu as besoin d'un auditoire?
Ignatius tâta la modeste érection qui piquait du nez dans le drap, referma la main dessus et demeura immobile.
Je suis tranquille, tu ne tarderas pas de faire un nom sur une de ces croix.
Ignatius sentit monter un rot dans sa gorge.
Ce garçon va rentrer dans un fermier.
C'est dans la légende qu'il va rentrer.
Ce qui traîne dans la tête de Marc Trévidic aujourd'hui.
C'est plutôt sympa, moi je suis assez content d'avoir ces choses-là dans la tête.
Vous préférez ce remix au premier, celui que je vous ai
nettement
dit tout à l'heure, nous sommes deux. Bien, pop, spécial justice pop, ça continue juste après le morceau dont nous venons de parler, Bob Dylan, Like a Rolling Stone.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown. Like a rolling stone. Oh, you've gone to the finest school, all right, Miss Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Direction home, a complete
tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that
Bob Dylan, Like a Rolling Stone, c'est dans Pop 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 sur France Inter pour le plus grand plaisir de Marc Trévidic, notre invité aujourd'hui. Marc Trévidic, avant d'aller plus loin, j'ai une question un peu saugrenue, mais puisque je vous ai en face de moi, je vous la pose. La perspective de porter une robe a-t-elle été déterminante dans votre choix de carrière? Alors je vous rassure, j'ai posé la même question au pape François.
Ah oui, voilà, non mais... en fait, pas vraiment, parce que j'ai commencé juge d'instruction, on ne mettait pas de robe justement.
Ah bon?
J'ai été... non, juge d'instruction, il ne met jamais la robe. Donc en fait, j'ai passé pas mal d'années à pas mettre de robe. Après, il a fallu effectivement à d'autres postes en mettre. Bon, voilà, ça permet d'être une ombre... indéfini, tout le monde est pareil, tout le monde est habillé pareil.
Justement, quels sont les avantages et les inconvénients de travailler en robe?
Je vois venir, mais j'en ai pas beaucoup, parce que non, on est habillé en dessous, donc du coup, même quand il fait 38 degrés dans la salle d'audience, ça change pas grand chose. Mais là, à cour d'appel, elle est rouge, la ouais. robe quand c'est l'installation. Dès qu'on prend des cheveux blancs, on nous colle du rouge. Ça va beaucoup mieux.
Ça en jette. Bon, bref, vous êtes ici aujourd'hui dans ce Pop 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 spécial Justice Pop pour nous parler de Compte à rebours, la BD que vous co-signez avec Mats, illustrée par Giuseppe Liotti et éditée chez Rue de Sèvres Éditions. Alors commençons par dire que vous avez une idole en matière de BD, c'est Blueberry de Charlier et Giraud. Encore du western, mais très loin de Terence Hill. Qu'est-ce qui vous plaît tant chez ce légendaire lieutenant?
Il n'est pas caricatural, il n'est pas il est droit quelque part, mais il peut faire des choses pas tout à fait catholiques non plus. Donc c'est il y a un réalisme, une complexité de l'être humain qui se retrouve chez Blueberry. C'est pas John Ford, c'est pas John Wayne. C'est un peu plus riche quand même. Et puis il a une sacrée dégaine, une attitude vis-à-vis de la vie, de l'aventure qui me plaît.
Alors justement, vous disiez à l'instant, c'est un anti-héros, Blueberry, aux méthodes parfois douteuses, à mi-chemin entre justice et criminalité. Est-ce que vous avez toujours rêvé d'être de ce côté de la loi, ou est-ce qu'il y a eu une hésitation à un moment?
Non, je suis désolé.
Mais ça ne me déçoit pas.
Je peux comprendre aussi. C'est-à-dire que je peux parfaitement comprendre ceux qui suivent une autre voie parce que leur histoire est comme ça. Le problème, c'est que pour vivre en société, il faut quand même des lois et des règles. Mais sinon, il n'y a pas toujours de la morale là-dedans. Il y a des infractions qui sont créées, qui sont très loin de problèmes moraux.
Et question BD, autant vous adorez Blueberry, autant vous détestez Babar. Qui vous a fait Babar?
Oui, c'est marrant, parce que Babar, c'est une escroquerie, voilà, c'est tout. Et quand on est petit, on nous montre le roi Babar, d'abord c'est un roi, c'est comme le président français, quoi. Donc, voilà. Et puis on nous dit, il nous aime, tout ce qu'il fait c'est bien pour nous, il faut applaudir Babar, alors la population, les petits éléphants applaudissent Babar, c'est ça les Babars. Mais en fait non, les dirigeants ne nous aiment pas forcément.
On n'aime pas les Babars. Bon, dans le compte à rebours, vous suivez le parcours d'un juge d'instruction, tribunal de grande instance de Paris, qui enquête sur un djihadiste se faisant passer pour mort et revenu en France pour y commettre des attentats. Ça sent le vécu, si je puis dire. Quelle est la part de votre propre expérience et celle de l'imagination dans cette histoire?
Ben, c'est ma propre expérience reimaginée. C'est ce que c'est. Vous prenez ce que vous êtes et puis après, vous allez vous projeter dans une aventure que vous n'avez pas connue exactement comme ça, mais en amenant tous les ingrédients. C'est comme si vous faisiez un gâteau avec les mêmes ingrédients que pour un 4 quarts, mais vous mettez une petite touche, peut-être un peu plus de farine que de beurre pour changer un tout petit peu.
Je me tourne vers Charline parce que c'est notre spécialiste pâtisserie, bien sûr, en tant que...
Parce que voilà, je suis une femme, bien sûr. Oui. Je vous ai des questions lessives également, n'hésitez pas. Mais est-ce que c'est pas un peu perturbant pour un juge antiterroriste d'imaginer de scénariser un attentat et sa préparation?
Écoutez, on voit des images partout d'attentats, on parle que de ça, du terrorisme. Voilà, il ne faut pas être naïf. C'est des images dures, mais c'est une BD pour adultes aussi. Hein. Ouais. C'est pas fait pour ceux qui lisent Babar. Je leur laisse leur faux espoir. Moi, c'est plus réel, quoi. On n'est pas dans Babar, c'est clair. Mais il y a des rhinocéros, hein, quand même. Mais bon, voilà, je pense que non, j'imagine les attentats qui n'ont pas eu lieu, qui auraient pu avoir lieu, mais de toute façon, si des gens veulent tuer, ils tuent. Hein. Faut pas rêver, ils n'ont pas besoin de moi pour les inspirer, en tout cas.
Le juge Duquesne, le héros de votre livre, est plutôt beau gosse. Il vous ressemble, hein, plus qu'à Paul Prébois, on va dire. C'est un hasard?
Ça, c'est le dessinateur. Moi, j'avais pas vu à quel point il y avait une certaine ressemblance. Mm-hmm. C'est n'est pas très bon juge de ça. Mm-hmm. Non, c'est le dessinateur, effectivement. Maintenant qu'on me le dit, il y a une ressemblance.
Un juge qui connaît la difficulté de concilier l'exigence de sa vie professionnelle et sa vie de famille, est-ce que toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait purement fortuite?
100% vrai, là, il n'y a pas de problème. Ça a été très chaud par moment, la vie de famille.
C'était important pour vous de mettre ça dans l'histoire aussi?
Bah oui, parce que pour en être juge, on n'en est pas moins homme. Hein. Donc voilà, il faut quand même montrer. Et puis, vous avez besoin aussi, les gens, ils ont besoin de s'attacher aux personnages, aux histoires. Donc qu'on fasse un roman ou une BD, c'est quand même l'ingrédient premier. Hein. Faut que les personnages soient attachants et d'une substance. On peut pas être que juge, qu'en représentation. Mmh. Et donc, en plus, c'est réel. C'est la réalité du problème de ce métier-là. Donc oui, c'était important d'avoir ce côté-là.
Pourquoi ce titre « Compte à rebours » qui rappelle tristement ça?
Voilà. C'est le compte à rebours avant l'explosion, mais c'est aussi le compte à rebours pour les enquêteurs. J'ai vécu ces situations où c'est vraiment très chaud. Donc en fait, chaque minute compte pour arrêter des terroristes avant qu'ils passent à l'action. Mmh. Et ça arrive de temps en temps, pas tout le temps. Mais c'est un vrai compte à rebours, ça met une pression. Notamment quand vous avez une série d'attentats, on se souvient en France, ouais, en 95. D'ailleurs, vous savez qu'ils vont en commettre d'autres, parce qu'on est déjà au deuxième, troisième. Hein. Bon, à l'époque, il y en avait eu quand même 8 au total. Mmh. Et donc, plus vous allez vite, plus vous arrêtez vite, plus vous sauvez des vies. Là, pour le coup, vous êtes vraiment chirurgien, mmh, quoi. Vous êtes vraiment SOS.
Et là, pour le coup, vous êtes dans une série.
Oui, il y a trois exemplaires, ouais, trois tomes. Le deuxième...
Non, mais je veux dire, vous êtes dans une série télé, les fameuses séries
24 heures.
Ah oui, c'est ça.
24 heures.
Oui, mais c'est la BD qui veut ce rythme aussi très élevé. Donc, ouais, ça se marie bien avec le terrorisme, parce que l'enquête a ce rythme élevé par moment. Ouais, pas tout le temps, mais quand vraiment ça chauffe, on le voit bien. On l'a vu avec les frères Kouachi, on voit très bien. Ça va très vite. Il faut vraiment qu'en 24 heures, 48 heures, on ait arrêté les mecs. Hein. Mmh. Sinon, ça va être un carnage. Donc...
En choisissant la BD, vous ciblez un public ado et jeunes adultes. Est-ce que c'est un moyen plus efficace de les toucher, de faire passer le message?
C'est vrai que c'est quelque chose de justement de très populaire, la BD, aujourd'hui. Donc on a des gens qu'on touche pas par le roman, encore moins par l'essai sur le terrorisme. Je veux dire, regardez, par exemple, j'ai réussi à ce que mes enfants lisent la BD. Ils ont jamais lu aucun de mes livres.
Vous leur parlez de votre métier, vos enfants?
Oui, ils ont vécu, vous vous rendez compte. Moi, je les appelle les battes, les bébés battes, parce que c'était les bébés antiterroristes. Hein. Mm-hmm. Quand j'ai commencé, avant l'instruction, j'étais au parc antiterroriste, je commençais en 2000. Paul est né en 2000, Sacha en 2002. Donc vraiment, ils ont vécu que ça.
Vous voyez bien que vous êtes Batman. Vous avez des enfants battes.
Ben voilà, c'est vrai.
Précédemment, vous avez publié 3 essais et 2 romans. Vous avez même vu interviewer Brian Ferry pour le journal L'Express. Vous semblez désormais être un couteau suisse de la pop culture. On le verra tout à l'heure avec votre live. La BD, c'était pour ajouter une corde à votre pop arc.
En fait, on me l'a proposé. Ça m'a séduit tout de suite. Alors... voilà, j'aime bien la BD, j'avais jamais fait ça, univers nouveau à découvrir, mais j'ai pas autant calculé en disant je vais élargir mes capacités. Donc voilà, j'ai pas pensé à ça à ce moment-là, mais maintenant en y pensant, effectivement, pourquoi se priver quand on vous offre une opportunité pareille de faire quelque chose qui vous plaît.
Alors quel domaine culturel il vous reste à explorer maintenant?
Ben, il y aurait le cinéma, évidemment, oui. Mais ça, on m'a déjà proposé des choses sur des scénarios, etc. Ça demande quand même beaucoup de temps. parce que je veux pas continuer, je veux pas arrêter d'écrire des livres. Et donc à partir de ce moment-là, mes capacités sont limitées. Donc pour l'instant, je peux pas m'engager dans des
projets trop lourds. Mais vous n'avez rien contre l'idée.
Vous n'avez rien contre l'idée. Mais c'est le temps, il faut être raisonnable. Quoi.
Cinéma ou des séries, parce que quand on pense à des séries...
C'est surtout les séries qu'on m'a proposées d'ailleurs.
Quand on pense au bureau des légendes, évidemment, il y a une matière première, une source d'infos qui est très
précise. J'ai discuté d'ailleurs avec un des producteurs, mais comme je dis, je ne m'engage pas si je ne suis pas capable de fournir.
Ouais.
Donc voilà, et comme ma priorité c'est d'écrire, le reste c'est en plus... Il y a mon boulot, hein. Franchement, ça rigole pas non plus. Donc voilà.
Mais justement, oui, il y a toujours votre boulot. Alors, que répondez-vous à ceux qui vous accusent d'être trop médiatisés, de sortir de la réserve que doivent observer les hauts fonctionnaires?
Parce que je ne me considère pas comme haut fonctionnaire, d'ailleurs, je me considère comme juge dans une république. On verra tout à l'heure avec Ginsberg qu'il y a des systèmes où on peut s'exprimer publiquement, les opinions dissidentes, dire qu'on n'est pas d'accord. On pourra aussi avoir cette courtoisie de laisser des magistrats qui connaissent sa matière se parler. Alors moi, j'ai conquis cette liberté. Maintenant que j'ai conquis, je la garde. C'est comme ça.
Tout le monde sait que vous avez quitté à contre-cœur la présidence du pôle antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris. Même si vous arriviez au terme de votre mandat, est-ce que vous avez eu un sentiment d'inachevé en partant?
Bah oui, c'est terrible. C'est laisser certains dossiers qui vous ont pris des années, vous êtes en plein dedans. Vous vous dites, les collègues vont avoir beaucoup de mal.
Ou vous retrouvez au moment de l'affaire Mera et alors on ne vous confie pas ce dossier.
Ah oui, bien sûr. Après, il y a des claques qui sont effectivement, qui sont vraiment des claques. C'est-à-dire, la hiérarchie, à un moment donné, a décidé qu'il ne va plus être en devant de la scène parce que le beau dossier qui sort là, il ne va pas être dedans. Voilà, ça c'est des mesures de rétorsion. Bon, c'est le prix à payer pour justement mon indépendance. Donc ça, je le prends normalement quelque part. Ça fait mal, mais je savais bien que le bâton, il y aura de retour de bâton à un moment ou à un autre.
Et en fait, vous payez votre indépendance.
Oui,
politique.
Mais c'est pas grave. C'est quand même beaucoup mieux, de payer un prix pour son indépendance c'est l'histoire du chien et du loup. C'est toujours pareil. Hein. Le chien est super, il est nourri, mais comme lui dit le loup, mon vieux, t'as une laisse.
Ouais.
Bon. Un choix.
Est-ce que les dossiers que vous avez dû laisser, vous continuez quand même de vous y intéresser?
Oui, bien sûr. Évidemment, quand on a travaillé des années sur Karachi, le Rwanda, les moines de Tibérine, Copernic, Rue des Rosiers, on ne peut pas s'en détacher. En plus, il y a quelques avocats de partie civile ou de partie civile elle-même qui m'en parlent.
Marc Trévidic, un juge d'instruction à votre niveau se trouve forcément pris dans des enjeux politiques sur lesquels il n'a pas prise. À la fin du tome 1, le juge Duquesne se voit contraint et forcé d'accepter une mutation. Mais alors, suspense total, que va-t-il se passer?
Il n'a pas signé encore, hein. Il a l'imprimé devant lui.
Ah oui, il l'a sous les yeux. Mais que va-t-il lui arriver dans le tome 2? Donnez-nous quelques indices, s'il vous plaît. Il faudra attendre jusqu'en janvier.
Bon, déjà, il va rester.
En 1.
J'avais envisagé de faire un tome 2 où il devient poissonnier. Je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas coller. Donc, je me suis dit, il va rester juste anti-terro. Mais en fait, comme j'écris toute l'histoire, c'est vraiment quelque chose qui monte en puissance, comme on pourrait écrire un thriller. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont un peu préparatoires dans le premier.
Ouais.
Mais je veux parler de tous les thèmes. Je veux parler de la guerre des polices, des luttes entre juges. Je veux parler de la géopolitique, de certains pays qui aident le terrorisme. Donc il y aura tout ça dans les trois, disséminés.
Très bien, on les attend impatiemment. Le premier tome s'appelle « Compte à rebours ». Il est édité chez Rue de Sèvres. C'est un livre que vous avez co-signé avec Mats. Les dessins sont de Giuseppe Liotti. Ne bougez pas, Marc Trévidic. L'émission continue. Vous savez faire plein de choses. Vous êtes un couteau suisse, disais-je. Savez-vous faire ça?
Ah, je suis pas sûr, hein.
Ah non, alors ça, il ne sait pas du tout le faire. Mais alors, je crois que c'est le pire pop.
Ah oui, mais là, j'ai où là, ouais. Non, par contre, il m'a impressionné.
C'est pas grave, c'est pour les pop news.
Un très chouette duo à vous signaler, ça s'est passé sur scène en Californie. Eddie Vedder, chanteur de Pearl Jam, est venu rejoindre l'ex-Smith Johnny Marr pour cette reprise. The Light, chanté par Eddie Vedder et Johnny Marr, dont l'autobiographie Électron Libre sera en librairie le 18 octobre.
Un bel ouvrage à signaler pour les fans de dessins nippons. Son titre, c'est 100 films d'animation japonais, 100 ans d'histoire, 100 films analysés par l'équipe d'Animeland, magazine spécialisé sur le sujet nippon ni mauvais. Au menu, Porco Rosso, Ghost in the Shell, Princesse Mononoke et même lui.
Pikachu.
Pikachu, mais oui, ils sont tous à retrouver dans 100 films d'animation japonais, c'est chez... Ils sont tous à retrouver dans 100 films d'animation japonais chez Inis Edition.
Ce mercredi, mise en ligne sur Netflix d'un film intitulé Un 22 juillet. On le doit à Paul Greengrass, réalisateur des Jason Bourne, mais aussi de Vol 93 sur les attentats de 2001 aux États-Unis. Et il s'attaque encore une fois à un sujet bien costaud, puisque Un 22 juillet raconte l'attaque terroriste la plus meurtrière jamais perpétrée en Norvège par le sinistre Anders Breivik.
We have breaking news. A large explosion has gone off in the center of the city.
We will suspend activities until we get some more information, okay?
I'm from Oslo PD. You heard about the bomb in the city?
Yes.
I've been sent to secure the island. Actually, can I see your ID?
Yeah, sure.
Vous avez dit glaçant, Un 22 juillet de Paul Greengrass, c'est ce mercredi sur Netflix.
France Inter. On peut pas. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Vous avez muté en troll ?
Oui, j'essaie des choses. C'est... Oui. Marc Trévidic, vous savez que nous avons deux passions en commun.
La musique, sûrement.
Oui.
Il n'y a pas de doute.
Les robes et le Velvet Underground.
Ah !
Absolument. Et comme vous avez laissé votre robe au vestiaire, je vous propose un vinyle du Velvet avec le morceau Sunday Morning, par exemple, qu'on écoute tout de suite.
Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling. Side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know.
Sunday Morning, c'est un morceau du Velvet Underground et c'était en 1967. C'est toujours aussi bon en 2018.
Ah oui, bien sûr. Alors, il y a eu différentes. Voilà, c'est une version peut-être qui est un peu vieillotte, mais il y a un charme. C'est le charme qui reste.
Marc Trévidic, fan du Velvet Underground. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon. Comme dirait Marc Trévidic. Non, vous n'y arrivez toujours pas.
Non, mais je ne vais pas essayer. Je serai chez moi tranquille.
Faire des répètes.
Marc Trévidic, si je vous dis Notorious R.B.G., vous me répondez quoi ?
Eh bien, Ruth Ginsburg, qui est un des membres de la Cour suprême, une femme, doit avoir 85 ans à peu près aujourd'hui, qui a commencé comme tous les juges fédéraux en étant avocate avant d'être nommée, et qui a défendu la cause de la femme.
Alors, Charline Roux, vous êtes allée à la rencontre de Betsy West, la réalisatrice du documentaire sur LGB.
C'est également le titre de ce documentaire, RBG pour Ruth Bader Ginsburg, juge à la Cour suprême des États-Unis et icône pop. Voici un extrait de la bande-annonce.
Ruth Bader Ginsburg est avec nous.
C'est fou de voir une octogénaire devenir une telle icône.
Je peux avoir un autographe ?
J'ai 84 ans et tout le monde veut se prendre en photo avec moi.
Notorious RBG.
Quand on y pense, personne ne se rapproche plus d'une super-héroïne qu'elle.
Ruth Bader Ginsburg a littéralement changé la vie des femmes américaines.
Mais qui est donc cette petite femme à grosses lunettes aussi présente dans les tribunaux que sur les réseaux sociaux ? Réponse de l'une des réalisatrices du documentaire, Betsy West.
RBG en anglais, est une mamie de 85 ans qui se trouve être également la deuxième femme juge qui siège à la Cour suprême des États-Unis. Ces dernières années, elle est devenue un véritable phénomène à travers le pays. Pour ses contestations, ses fortes prises de position contre les avis de plus en plus conservateurs rendus par les juges de la Cour suprême, si bien qu'une jeune femme a créé un blog qu'elle a appelé Notorious RBG, la célèbre RBG, et c'est devenu viral. Elle est aujourd'hui une super-héroïne sur le net et l'icône d'une foule de gens.
Alors Marc Trévidic, on en revient au personnage du juge super-héros, mais est-ce que c'est bien compatible ?
Aux États-Unis, tout à fait, parce que la Cour suprême, le système judiciaire fédéral est un véritable pouvoir. Il y a un respect pour les juges assez extraordinaire. Il y a une tradition aussi de lutte pour les droits fondamentaux. Et il y a un respect de la Constitution qui est phénoménal. Donc il y a un tel respect pour les juges que c'est pas étonnant qu'un juge d'une qualité aussi évidente qu'elle devienne une icône. En France, beaucoup moins, parce que la justice est plutôt méprisée, c'est avec des moyens misérables, on n'est pas un pouvoir, on peut pas avoir ce phénomène en France, ça c'est clairement... Mais là-bas, oui, parce que c'est des gens aussi presque aussi importants que le président des États-Unis, parce qu'ils représentent le pouvoir judiciaire qui est très fort.
Alors Ruth Bader Ginsburg est une femme puissante et influente, et donc par essence elle est très occupée. Nouvelle question à Betsy West, RBG a-t-elle été facile à convaincre quand il s'est agi de tourner un documentaire qui lui était intégralement consacré ?
Il a fallu faire preuve de persuasion pour convaincre la juge Ginsburg de coopérer. Au début, elle nous disait « plus tard ». Elle avait alors 82 ans. Et on s'est dit « bon, si ce n'est pas maintenant, quand ?» Et puis finalement, elle a accepté qu'on la suive à travers tout le pays pour filmer les conférences qu'elle donne dans des facultés de droit. Et nous avons pu interviewer également certains de ses amis et anciens collègues. Et donc, à force d'insister et de la suivre à la trace, elle a accepté qu'on la filme dans son bureau, au travail, et aussi chez elle, en famille, en vacances. Et même, c'est incroyable, dans la salle de sport où elle s'entraîne dur. Avec pour coach un instructeur militaire qui ne lui passe rien.
Oui, le documentaire suit effectivement RBG au bureau comme dans sa vie privée. Les séances de gym sont très, très musclées.
Et Marc Trévidic, si on faisait un documentaire sur vous, vous accepteriez d'être suivi comme ça, jusque dans une certaine intimité ?
Je crois pas. Non, je crois pas, mais voilà,
Vous pourriez soulever des haltères comme elle le fait.
Oui, j'y arriverai. Non, mais je suis un peu plus jeune, il faut reconnaître. Même si, bon, ça avance aussi.
Vous avez quoi, 83 ? Pas très loin non plus.
53. Bon, il y a encore un peu de marche.
Et pour ce qui est du fond du documentaire, on croise de multiples intervenants, familles et professionnels, et même un ancien président, Bill Clinton.
Là, vous savez, il a fallu attendre un certain temps avant que Bill Clinton accepte de nous parler, mais je crois que c'est parce qu'il se passait beaucoup de choses à ce moment-là. C'était pendant la campagne pour les élections présidentielles. Nous l'avons interviewé après les élections. Il est très fier de cet héritage précieux qu'il nous a légué en nommant la juge Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême. Donc je suis sûre qu'il était heureux d'en parler. C'est à mon sens l'un des actes les plus forts de sa présidence.
Le juge est une femme en France. Ça reste de la fiction, ça, non? Parce que depuis Eva Joly, on n'a pas vu beaucoup de femmes.
Ah oui, sauf que à l'ENM actuellement, 90% sont des femmes à l'école de magistrature. Ouais. Hein. Dans les facs de droit, il y a 75% de femmes à peu près. Donc oui, maintenant les femmes qui deviennent juges, enfin les magistrats sont des femmes. Maintenant, il reste encore quelques vieux croulants, hein, donc je commence à faire partie. Il reste quelques hommes encore. Hein. Et moi, je me suis toujours beaucoup battu pour les droits de la femme. Et voilà, comme ma collègue à la Cour suprême, notamment pour le machisme des salafis djihadistes m'énerve. Je trouve que les femmes avaient le droit aussi de se faire exploser, comme les hommes. Donc voilà, il y a du machisme partout.
Donc on est sur la bonne voie, Marc Trimé.
Bah oui, là ça avance, hein, les droits de la femme djihadiste.
La popularité de RBG dépasse les tribunaux. On a vu fleurir ces dernières années des t-shirts à son effigie sur les réseaux sociaux. Elle est devenue un mème, on la voit en gif. Et on la voit même dans des parodies télé. RBG, une juge pop, Betsy West.
Sur Internet, vous savez comment ça marche. Ils prennent une photo de sa tête, ils la collent sur le corps d'un super-héros, une Wonder Woman. Et puis ils inventent des slogans accrocheurs comme dans Truth, la vérité, il y a Ruth, etc. Elle inspire véritablement les jeunes générations. Et c'est vrai que pour une femme de 85 ans, elle jouit d'une popularité exceptionnelle.
Ce genre d'ultra-popularité, ça laisse rêveur.
C'est un phénomène inédit. C'est toute sa vie qui fait qu'elle mérite. Voilà, parce qu'elle est extraordinaire. Quand les gens sont extraordinaires, c'est assez logique que ça arrive.
Et c'est un peu rassurant, moi, je trouve, de voir son image se propager sur les réseaux sociaux. C'est un bon modèle, pour le coup.
Ça réconcilie avec la justice, avec l'humanité même.
Eh bien, restons sur cette note optimiste. Merci, Charline. RBG de Betsy West et Julie Cohen. Ça sort le 10 octobre. Marc Trévidic, vous êtes fan de musique et je ne sais pas si vous le savez, mais ma cave fait partie des scènes les plus mythiques au monde.
Oui, je le sais.
Vous le savez?
Ah oui.
Bien. Les artistes se battent pour y jouer à l'image de M, qui a refusé la première partie de Metallica pour venir jouer dans la cave. Souvenez-vous.
Oh, bah, allez-y. Attends, vous écoutez.
Est-ce qu'elle sonne, t'inquiète.
On essaie.
Cet air, t'en souviens-tu? Ce bel instant perdu.
Voilà, Marc Trévidic, voulez-vous que je vous emmène à votre tour dans ma cave pour y faire un live?
Ok.
Vous êtes prêts?
Ah oui.
Ok. Alors attendez, je vais ouvrir la trappe. Ah! Attention à la tête, hein, venez. C'est un peu bas le plafond. Voilà. C'est là. C'est impressionnant, non? Qu'est-ce que vous en dites?
Bah, c'est comme une cave, quoi.
C'est une grande cave. C'est une cave magnifique. C'est une
cave de vin.
C'est une cave magique. Alors, je peux vous dire que ces murs ont une histoire. Hein. Je revois encore ici Guy Pop sortir son kiki sur cette scène. Ah. Ou Prince y faire un solo avec les dents de devant. Enfin, je dis pas ça pour vous mettre la pression, hein.
Mais pourquoi sortir son kiki s'il n'y a pas de public?
Parce qu'il le sort tout le temps.
Ah bon, d'accord.
Oui. Et c'était pour Charline cette fois-là. Vous êtes prêt, Marc Trévidic?
Oui, très.
Mettez-vous en place. Et juste après mon pop, ce sera à vous.
See the way she walks, in the way
she talks. Written in a book, your number 37, have a look. She'll breed you up to just put you down. What a clown. Little boy, she's from the streets. And before you start, you already bit. She's going to break you all in two. Yes, it's true. Cause everybody knows she's a femme fatale. Sing, she does to please, the femme fatale. Just a little cheese, the femme fatale. See the way she walks, hear the way she talks. Femme fatale, and the thing she does to please, the femme fatale, to just a little tease, the femme fatale. Whoa, 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 whoa.
Bravo! Femme fatale du Velvet dans la cave de Pop Pop Pop.
Avec au cœur Antoine de Caunes.
Alors vous savez, j'admire infiniment les gens qui osent chanter. Donc c'est pas le métier premier, je veux dire.
Oui, c'est comme parler en anglais quand on n'est pas trop bon. Ah, il faut se lancer.
Je trouve ça d'une bravoure et je vous en félicite.
Merci beaucoup.
Bravo Marc Prévidic. Très belle version. Votre BD Compte à rebours, co-signé avec Mats et dessiné par Giuseppe Liotti. C'est disponible chez Rue de Sèvres, édition. Demain dans Pop Pop Pop, l'auteur David Dufresne. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe, suivez-nous, plutôt comme dit Colombo à la fin de ses tutos sur YouTube. Abonnez-vous à notre podcast.
Yves Montand, non ?
Un petit peu. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontana à la réalisation, à la technique Philippe Duclos, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Hugo Combes et Simon Arestat, nos attachés de production. Programmation musicale Djoubaka et Colin Gruel, notre stagiaire.